Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau carnet de région magazine d'actualité riche pour l'information avec pour coproduire cette émission les radios associatives de la région Languedoc-Roussillon pour un retour sur l'actualité de la semaine mais également à venir. Parlons du sommaire pour ce carnet de région. Nous parlerons d'un colloque, un colloque qui s'est déroulé cette semaine à Carcassonne portant sur le thème des jeux dangereux. Sujet de nos confrères de RCF Pays d'Aude. Nous verrons aussi que la lutte contre la réforme des statuts des intermittents du spectacle est précaire, fait beaucoup parler d'elle et ne faiblit pas, bien au contraire, nous le verrons. Radio Aviva fera le point sur le Conseil Montpelliérain de la Jeunesse qui a renouvelé son assemblée, ça s'est passé le 18 juin dernier. Et pour clôturer ce magazine, nous célébrerons la fin du programme d'aménagement de protection contre les inondations dans la basse vallée du Lèze. C'est le carnet de région. Et pour débuter ce carnet de région, place à un immense projet immobilier et touristique haut de gamme qui va voir le jour sur Montagnac, près de Pézenas. Le PDG de France Pierre et le préfet ont donné le coup d'envoi d'un projet immobilier et touristique d'exception sur les 190 hectares du domaine du château de Lavagnac, près de Pézenas, dans l'Hérault. Classé monument historique, le château très dégradé sera rénové et transformé en hôtel de prestige avec notamment la réalisation de résidences de tourisme tout autour d'un lotissement ou d'un golf international. Un projet porté par le promoteur Antonio de Souza et son groupe France Pierre.
Alors, ce qui m'a décidé de prendre ce projet, on me l'avait présenté et je suis venu sur le site et le site il m'a plu. En plus, nous-mêmes, mon entreprise, on a déjà restauré plusieurs châteaux et j'adore donner vie à des châteaux qui sont en train de disparaître un petit peu partout. Et donc, lorsque j'ai vu le site, ça m'a donné envie de venir ici et faire un projet de cette envergure. Donc, ce projet ici, on avait prévu de commencer le projet lorsqu'on aurait 60 millions de réservations. Je pense qu'à ce stade, on n'aura pas besoin des banques. On les prend parce qu'il faut la garantie d'achèvement, mais on est capable de porter ce projet sans aucune banque. Alors, il y a la restauration du château, et on va faire un hôtel de 5 étoiles. Il y a un golf de 18 trous, il y a des tennis, il y a des salles de conférences, il y aura des commerces, des restaurants, il y a 630 villas. Au niveau des villas, j'ai voulu faire également diviser quelques villas pour faire des logements, parce que je pense que quelqu'un qui vient tout seul, un golfeur qui vient jouer au golf, il ne va pas louer une villa. Donc j'ai fait 11 témoins, mais il est clair qu'en fonction des demandes et de la commercialisation, le projet peut évoluer.
Un projet qui va démarrer quand?
Alors, le projet, on a prévu de démarrer le golf, les travaux publics et la construction à partir de janvier 2015. Ça va dépendre de la commercialisation. Aujourd'hui, on est très avancé avec la société de commercialisation. Ils ont des contacts dans une vingtaine de pays déjà. Depuis une dizaine de jours, on a des appels tous les jours. Bon, il faut savoir que nous, aujourd'hui, on a les moyens de faire ce chantier en 3 ans. Si la commercialisation le permet. On n'a pas pour habitude de construire des maisons et les laisser vides. On ne commence jamais un projet tant qu'on n'a pas vendu 50%. C'est pour ça que j'ai fait 8 tranches, de façon à vendre et à commencer les constructions. Pour moi, un chantier comme ça, le maximum, c'est 5 ans. Tout sera terminé.
Présent lors du lancement de ce projet, le préfet de l'Hérault, Pierre de Bousquet, est venu encourager la démarche.
L'État est très heureux d'accompagner ce projet qui, à l'origine, est un projet public puisqu'il a été porté longtemps, pendant des années, par le maire et conseiller général de la commune. Nous agissons ici dans un cadre extrêmement protégé puisqu'il s'agit d'un château monument historique classé depuis des années et d'un parc paysager. Malheureusement, le château a été vandalisé avant d'être protégé. Sur ce qui reste à faire, sur les restaurations, nous allons et nous accompagnons l'architecte des bâtiments de France et les services des affaires culturelles accompagne le promoteur pour voir avec lui, mais c'est bien son intention aussi, ce qu'on peut tirer de mieux de cette magnifique enveloppe. Puisqu'on fait d'un château 17e un hôtel 5 étoiles de 70 chambres, donc il y a quand même beaucoup de choses qui méritent d'être regardées avec soin. La protection n'empêche pas le développement. Le château, comme souvent, a été positionné à l'origine dans un endroit où, à proximité de l'eau. Il y avait un moulin, il y a l'Hérault à quelques centaines de mètres, et cet endroit est desservi par la compagnie du Rhône, et donc il n'y a pas de problème d'approvisionnement en eau. Bien évidemment, en cas de restriction, ces installations, le golfe en tout cas, seraient soumis aux mêmes restrictions qu'aujourd'hui les terrains de sport.
On sait l'importance du tourisme dans la région, dans le département en particulier. Est-ce que l'avenir est à ce tourisme de haut de gamme, de grande qualité ?
Un avenir est à ce type de tourisme. On a depuis 40 ans fondé le développement touristique du département de l'Hérault sur un tourisme populaire et principalement balnéaire. Il est le bienvenu, c'est un socle, il faut continuer, c'est une grande part de notre prospérité. Mais il y a de la place à côté de ce tourisme populaire pour un tourisme plus haut de gamme, dirais-je, qui attire des visiteurs plus forcenés et qui permet de mettre en valeur le patrimoine de la région, le château et les alentours, c'en est ici un exemple. 2000 personnes vivant ici en haute saison, 200 personnes vivant à l'année, puisqu'il y a une partie de ce programme qui est un résidentiel en accession à la propriété, c'est déjà l'assurance que des dépenses seront faites. Et puis, il y a les centaines de personnes qui ont participé à la construction de ces dizaines de villas, dont le promoteur a pris soin de dire qu'il allait procéder par l'eau, petit lot, de façon à ce que tous nos artisans locaux soient les premiers à bénéficier de cette manne.
C'était un sujet d'Alain Mendès de Radio Lodève.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Direction maintenant le département de l'Aude où un colloque s'est déroulé à l'initiative de Gaël Tranchant, maire d'Alexandre, qui avait mis fin à ses jours en février 2013 suite à du harcèlement. Ce colloque portait donc sur le thème des jeux dangereux, également du harcèlement à l'école. Gaël Tranchant justement nous parle de ce colloque qui a eu lieu à l'auditorium Chapelle des Jésuites et qui a vu la participation d'une trentaine de personnes et du conférencier Jean Gabart.
Ce qui a pu retenir mon attention sur ce colloque, voilà, c'est je pense une prise de conscience de l'amplification du phénomène de harcèlement et des jeux dangereux. Donc voilà, c'est se dire oui, effectivement, le problème existe, il faut se battre. Maintenant, il reste à mettre en place tout le travail derrière pour que les choses soient faites concrètement. Et c'est surtout ça, c'est la chose qui me paraît primordiale, c'est que un plan d'action concret doit être mis en place, tant au niveau des établissements scolaires ou périscolaires, puisque le phénomène se déporte en dehors de l'école, et également prévenir et les enfants et les parents.
La société devient plus violente et ça impacte justement la cour d'école. On dit toujours que les enfants ne se sont jamais fait de cadeaux à l'école. Est-ce que du coup la société est plus dure qu'avant ?
Alors mon sentiment à moi, et je serais tentée de vous répondre oui, la société est devenue plus dure, les enfants sont plus durs. Après les raisons sont... Bon, divers facteurs peuvent rentrer en compte puisque les moyens mis à disposition des enfants maintenant sont beaucoup plus nombreux, tant par la télévision, les smartphones, Internet, etc. Donc les enfants ont accès à beaucoup plus d'informations. Les parents sont peut-être un petit peu moins vigilants parce que les informations ne sont pas forcément maîtrisées. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a un impact quand même conséquent de la violence auprès des jeunes actuellement. C'est une banalisation pour eux de la violence qui est devenue pour nous une grosse, grosse problématique.
Et est-ce que c'est du cas par cas toujours, on peut dire ça ? Ou est-ce qu'il y a, on peut dire cet enfant est fragile, il va être harcelé ? Non.
Non, il y a aucun. Non, c'est pas parce qu'un enfant est fragile ou c'est nous, notre enfant n'était pas spécialement fragile, on n'a rien vu venir, on a été confronté à ça, on est un peu tombé des nues par rapport à ce qui nous arrivait, parce que jamais on n'aurait pensé être touché un jour. Des enfants jouent, on a sur le bassin carcassonnais des enfants de maternelle qui jouent à des jeux de non-oxygénation. C'est des enfants qui sont très très équilibrés, enfin plein de vie, etc. Non, il n'y a pas de stéréotype du tout. C'est demain, ça peut être n'importe quel enfant. On n'a pas envie que d'autres enfants aient à vivre la même situation que celle d'Alexandre. Voilà, c'est de leur dire des solutions existent, Nous, on n'en a pas parlé forcément à Alexandre à cette époque, que maintenant, voilà, il faut en parler, des solutions existent.
Enlever le tabou, quoi.
Voilà, il faut enlever le tabou et se dire que voilà, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au drame pour arriver à solutionner cette problématique.
C'était Gaël Tranchant, des propos recueillis par Éric Boyer de RCF Pays d'Aude. Et pour en savoir un peu plus sur ces questions liées aux jeux dangereux, également au harcèlement à l'école, je vous renvoie vers le site internet suivant, jeuxdangereux.fr. C'est le carnet de région avec la suite. Lancer un collectif Cévennes pour défendre les précaires, mais également les intermittents, tel était l'objet de la réunion qui s'est tenue mardi dernier au théâtre Albared. Ça s'est passé à Ganges, au nord du département. Une trentaine d'intermittents, d'artisans et de précaires se sont réunis pour réfléchir à la forme que pourrait prendre ce mouvement sur le territoire, sur un territoire d'ailleurs plus rural du sud des Cévennes. Et un des premiers objectifs a été rappelé en début de réunion par une intermittente de Montpellier qui vit à Ganges. Il faut informer.
Il faut vraiment dire aux gens que ça ne concerne pas que
c'est
nos
ça,
mais
c'est ça. C'est, on n'a pas
où ça va passer. Il y en a beaucoup dans le public qui n'ont pas même compris ce qu'ils demandaient. Ce qu'on entend tout le temps, c'est non, mais il y a plus grave que votre statut. Sauf que justement, le plus grave, il est dedans et on continue bien à se battre pour dire que même si nos annexes sont retirées de l'accord, c'est-à-dire même si nous, on est sauvés, on lâchera pas. Je pense que c'est encore les privilégiés de l'intermittence qui se battent pour leur petit statut.
Les débats ont ensuite été vifs et constructifs pour savoir comment continuer le mouvement entre fatalisme et détermination.
Donc de toute façon, même si on est en grève pendant 2 mois ou 3 mois, a priori, ça ne change rien.
En fait, ce qui se passe, c'est que si le gouvernement cède pour nous, avec tout ce qui se passe en ce moment, il sera obligé de céder pour tout le monde. Ça, c'est le discours. C'est si on cède pour eux, on va céder pour tout le monde. Donc on va pas lâcher. Après, il faut savoir que Avignon, c'est 1 million d'euros par jour qui est perdu. Ouais. Ils vont pas lâcher jusqu'à quand ?
Soutien des politiques locaux, caisse de soutien, gratuité d'événements, annulation, mais surtout information. Ce sont donc les principaux modes d'action qui ont été débattus sans qu'un consensus n'émerge. Le collectif Cévennes va sûrement voir le jour, mais à chaque organisateur de manifestation de choisir son mode d'action. Un reportage de Rémi Goujon pour Radio Escapade et merci de votre compréhension quant à l'audition de la qualité de cet enregistrement.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le conseil municipal, le conseil montpelliérain de la jeunesse, ou le CMJ, a renouvelé pour la 3e fois son assemblée. Ça s'est passé le mercredi 18 juin, ce mercredi. Depuis sa création en 2009, cette assemblée regroupe des jeunes âgés de 16 à 29 ans qui sont chargés de réfléchir à toutes les questions concernant la jeunesse dans la ville. Le nouveau CMJ compte 104 membres. Il dispose d'un budget qui lui permet de financer les actions, la mise en place, mais également un secrétariat et un lieu pour se réunir. Les membres de cette assemblée consultative peuvent mettre en place des actions ponctuelles ou de réfléchir à des projets à long terme. Fabien Habert, le nouvel adjoint au maire de Montpellier, délégué au sport et à la jeunesse, nous explique d'abord comment faire partie de ce conseil montpelliérain de la jeunesse.
Pour le Conseil Montpelliérain de la Jeunesse, il faut simplement être acteur, on va dire, de la ville. Donc, c'est-à-dire soit habiter sur Montpellier, soit y travailler, avoir une activité associative. Voilà, il faut être acteur de la ville. Après, il n'y a pas de contraintes particulières. Après, nous, on est ouvert, donc c'est une assemblée citoyenne. Donc, on est là pour accueillir tout le monde, toute bonne volonté qui veut travailler dans un intérêt commun de la ville. Voilà, simplement. Après, on aborde différentes thématiques et ces thématiques sont en réflexion avec les membres du CMJ.
Et pourquoi dit-on qu'on renouvelle cette assemblée ce soir ?
Donc déjà nouveau mandat, donc nouvelle assemblée. Sinon c'est tous les 3 ans qu'elle est renouvelée. Donc voilà, après il peut y avoir des petits ajustements au fil des années, puisqu'il y en a qui peuvent partir et d'autres qui peuvent revenir, qui peuvent partir et donc d'autres qui viennent, des nouveaux. Donc voilà, il peut y avoir des petits ajustements de ce point de vue-là.
Il y a beaucoup de membres dans ce comité montpelliérain de la jeunesse ?
Ce soir, là on est à environ 80 et après il va y avoir certainement une petite diminution. Et on a toujours quelques-uns qui ne prennent pas part longtemps, on va dire, aux activités du Conseil montpelliérain de la jeunesse.
Ils ont des missions particulières, ils ont un rôle à tenir au niveau de la vie citoyenne à Montpellier ?
Oui, c'est aussi un endroit où ils sont écoutés et où justement de là on peut partir et travailler aussi ensemble. Montpellier est une ville très jeune et donc c'est aussi un moyen de les assimiler entièrement aux réflexions de la ville.
J'ai vu que parmi les dernières actions qu'ils ont pu mener, il y avait un travail autour du permis de conduire.
Oui, tout à fait. Il y a un travail qui est fait aujourd'hui autour des permis de conduire. Il y a des aides. Donc, ils déposent leur dossier et derrière, il y a des validations qui sont faites selon leurs demandes, les besoins. On regarde si ça correspond aux critères et là, après, on agit en fonction pour aider de financer une partie. On ne finance pas le permis de conduire. On finance une partie du permis de conduire. Voilà.
Mais ces jeunes peuvent-ils avoir véritablement une action auprès des élus?
Ceux qui font partie du CMJ, oui, bien évidemment. Bah, la preuve, le maire qui la préside, et après donc l'adjoint délégué à la jeunesse. Oui, il y a un regard forcément des élus en lien direct avec le conseil montpellierain de la jeunesse. Donc oui, c'est une volonté du maire d'avoir une écoute attentive aussi des jeunes qui ont une part importante dans la ville.
Jérémy et Naïma font, eux, partie des 104 membres de ce CMJ. Ils nous expliquent ce qui les ont poussés à se lancer dans cette aventure.
Au départ, c'était une curiosité. Puis après, je me suis dit que c'était plutôt sympathique. J'avais jamais fait ça. Je m'étais jamais impliquée pour la ville. Et je voulais voir un peu comment se passaient des réunions avec les jeunes pour décider de décisions, enfin, ou de projets. Et je voulais m'impliquer vraiment dans la ville. Et je pense qu'avec ce conseil, on pourra décider de choses. Et j'ai plein d'idées. Donc, il faut les mettre au service aussi de la ville.
Voilà. Et vous, Jérémy, comment vous avez fait pour rejoindre ce groupe ?
Alors, tout simplement par connaissance, on m'a parlé d'abord de ce groupe de jeunes. Après, mon engagement, il tourne autour d'un engagement pour la jeunesse, au travers d'une ville qui accueille énormément de jeunes et qui regroupe une dynamique très importante de jeunes, avec des actions à mener, à porter jusqu'au bout, et une dynamique de projet qui, moi, m'intéresse beaucoup pour construire ensemble des choses pour la jeunesse.
Je peux vous demander votre âge ?
J'ai 25 ans.
Et vous, Naïma ?
23 ans.
23 ans. Et vous êtes étudiant ?
Oui, je suis étudiant en formation d'éducateur spécialisé.
Et vous, Naïma ?
Étudiante en école de journalisme, voilà.
Et ça va vous prendre du temps, ces réunions, ces assemblées ?
Mais c'est quelque chose qu'il faut s'impliquer dans la ville, et peut-être que ce sera un positif pour l'avenir pour nous, de pouvoir aussi partager des idées, voir si elles pourraient être, débattues avec les autres, et puis qu'elles soient concrétisées par la suite, on pourra voir ça.
Et vous avez le sentiment, Jérémy, que vous pourrez intervenir auprès des élus pour faire apparaître vos projets, vos idées, vos initiatives ?
C'est bien mon intention de, quelque part, me mêler un peu de la vie de la jeunesse, parce que je pense que c'est pour ça que nous participons à ce conseil, pour pouvoir justement agir pour les jeunes, par des jeunes.
Et pour faire le tour complet de ce sujet, pour donner un exemple d'action du Conseil Montpelliérain de la Jeunesse, de ce CMJ, la prochaine assemblée débattra de la mise en place d'un dispositif d'aide financière au permis de conduire. C'était un sujet de Liliane Drey de Radio Aviva. Plusieurs grandes crues du Lez ont été recensées ces dernières années, affectant particulièrement la commune de Latte et causant d'importants dégâts. Mais ceci est du passé. Aujourd'hui, les 18 000 Latois sont protégés du risque majeur de la rupture des digues du Lez. Aux côtés de la commune de Latte et de l'agglomération, la région, l'État, l'Europe et le département de l'Hérault qui se sont mobilisés pour mener à bien un projet d'envergure de sécurisation de la basse vallée du Lez. Notez que c'est le plus gros chantier réalisé en France au cours de ces dernières décennies. Notez plutôt deux chiffres, 48 000 euros pour le budget initial et tout ceci en 8 ans. Tout a été réalisé mais également respecté. Tout le monde est content, comme le souligne le préfet de la région, Pierre de Bousquet.
C'est très important de se prémunir contre les inondations. Dans la région Languedoc-Roussillon, c'est 70% des communes qui sont exposées à un risque d'inondation, soit par submersion marine, soit par débordement de rivières. Et ici, sur ce bassin du Lez, à Val, il y a 8000 personnes à peu près qui étaient dans ce risque. C'est très heureux que depuis 6 ou 7 ans, toutes les collectivités territoriales aient rejoint l'État dans sa politique prioritaire de protection des populations, permettant la réalisation d'un énorme chantier, 44 millions d'euros, pour permettre au Lèze de s'écouler dans des conditions qui soient honorables sur le plan de l'environnement et ne mettent pas en péril les populations voisines.
Monsieur le Préfet, donc, l'État a apporté à la hauteur de 25% la contribution donc, de ce chantier. Pouvez-vous nous parler justement de ces différentes actions de l'État contre le risque de prévention de ces inondations ? Ici, ça passe par le PPRI, vous l'avez dit, les programmes ici de PAPI 1 et PAPI 2.
Ouais, l'État intervient d'abord sur le plan normatif, sur le plan réglementaire, hein, ce sont les plans de prévention du risque d'inondation qui sont simplement des contraintes d'urbanisme qu'on met pour éviter de bâtir dans des zones inondables ou d'aggraver le risque. Ça, c'est le côté administratif, dirais-je, mais qui est très important. Et l'État intervient aussi de façon active et concrète en aidant par ses conseils, par son ingénierie et bien sûr par ses financements, la réalisation d'ouvrages de protection. Voilà, c'est ce qui se passe dans le cadre des PAPI, qui sont les programmes d'action de prévention des inondations.
Et donc là, il y a le PAPI 2 qui va arriver. Alors là, ça concerne plutôt le secteur de la Mausson, donc plus vers Montpellier.
Voilà, le PAPI 1 couvrait le bassin du Lèze, principalement aux environs de Latte, hein, un chantier de 44 millions d'euros auquel tout le monde a participé. Et nous avons devant nous le programme, un deuxième programme qu'on appelle le PAPI 2 sur toujours ce bassin, grand bassin du Lèze, et qui va concerner la Mausson. Concerner la Mausson, c'est un programme un peu plus léger, très lourd quand même, 25 millions d'euros.
Monsieur le Préfet, en lien avec justement l'eau, parlons de la sécheresse.
J'ai pris un arrêté de mise en alerte dans le département de l'Hérault, car nous sommes à la mi-juin dans une situation qui est alarmante. C'est une situation qui est 3 mois en avance sur les niveaux d'étiage que l'on connaît généralement vers la fin de l'été. Aujourd'hui, il n'y a pas de risques plus sérieux que ça pour la consommation humaine, mais il faut, dans un esprit de responsabilité, d'ores et déjà limiter les utilisations non nécessaires de l'eau pour préserver la ressource si l'on veut, tout au long de l'été qui vient, accueillir dans de bonnes conditions les touristes qui sont notre richesse et préserver aussi les usages agricoles les plus importants. Donc que les habitants de l'Hérault le comprennent et cesse d'arroser exagérément leur jardin, de laver au jet leur voiture. Il y a des stations pour ça. Et puis, quand on n'arrose plus non plus les stades, on en a moins besoin l'été.
Qu'on fasse preuve de civisme, c'est votre mot un petit peu.
Qu'on fasse preuve d'esprit de responsabilité et de solidarité. C'est un bien commun, c'est un bien précieux. Et puis, on peut quand même souhaiter qu'il pleuve un peu.
Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève ce nouveau carnet de région, magazine d'information en région avec vous tous. Tout d'abord, merci de nous avoir suivis. Merci également aux radios qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration et également à la diffusion de ce magazine d'actualité riche encore cette semaine. Prochain rendez-vous avec le carnet de région, c'est bien sûr la semaine prochaine. Quant à moi, j'ai été très heureux de vous accompagner la semaine prochaine à la présentation de ce magazine. Vous retrouverez Romain Bercher de RCF Maglone Hérault. C'était le carnet de région.